France Musique.
Bonne soirée Vincent Théval et merci beaucoup pour votre label pop. On vous retrouve la semaine prochaine.
1, 2, 3. Hein ? Encore une fois ?
Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui fait du bruit. Nouvelle thématique pour ce mois de février, l'objet sera mis en valeur sous toutes ses formes, qu'il soit sonore ou musical, concret ou abstrait, concept ou matière, l'objet se déclinera en 4 émissions et 4 invités concernés par ces objets protéiformes. Premier épisode, premier invité, le compositeur Mauro Lanza viendra nous confier son amour pour l'objet. Ses sons, sa matérialité et son imprévisibilité émaille l'œuvre de Mauro Lanza, en particulier dans le cycle qu'il a entrepris avec Andrea Valle depuis 2014. Et comme chaque dimanche, un zoom sur une œuvre plus ou moins récente et un son tout droit sorti de notre cortex. Le Cri du Patchwork, table numéro 15, épisode numéro 1, séquence numéro 1.
Eh, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine. La machine à écrire. Cet objet, aujourd'hui désuet, mais dont les sons hantent notre mémoire collective. Des premières Remington aux machines à écrire électriques, la frappe robotique de la machine à écrire est toujours restée insensible. Pas de nuance, uniquement une mécanique au fil des mots. Rob Ellis, en la confrontant à un synclavier, un ordinateur, lui rend hommage, comme si nos PC et autres Mac lui devaient tout. Copie ou la machine contre la machine. Ici, la machine à écrire écrit, c'est-à-dire qu'elle ne se soucie pas des rythmes qu'elle peut produire malgré elle. Et c'est là que cet objet de notre quotidien a ouvert des fenêtres d'expérimentation sonore jusque dans la funk et la chanson française. Pour preuve, deux exemples piochés dans la quantité astronomique de morceaux utilisant la machine à écrire.
Son cœur qui tape près de mon cœur.
Nos deux cœurs qui frappent ton cœur.
Tac tac.
Tac tac.
Cric-cric.
Cet objet reconnaissable, identifiable, quotidien et rassurant a permis de créer des superpositions de rythmes hyper complexes comme dans ces extraits de Get This Thing Down des Olympic Runners et La Dactylo de Jacques Hélian et son orchestre. Personne n'ira dire que la machine à écrire ne joue pas en rythme. Son arythmie admise, par tout à chacun, donne alors à entendre des polyrythmies des plus modernes, tout en restant un simple bruitage. Mais on peut aussi transformer la machine à écrire en instrument, devenir un virtuose percussionniste de la machine à écrire. Voici deux tubes.
Oh là 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 là, je suis fatigué, je suis épuisé, éreinté, brisé, je suis condamné à perpétuité, à taper, toute la journée.
Le tube de Leroy Anderson, interprété sur scène par Jerry Lewis, puis la machine à écrire sous forme de samba de Gilbert Bécaud. Être virtuose de la machine à écrire, c'est chaud. L'instrument manque de réponse, de précision dans le geste. Aussi, lorsque Steve Reich l'utilise dans son opéra The Cave de 1993, il la confronte à la mécanique simple du claquement de main. Son fameux clapping music transformé en typing music. La machine à écrire devient une percussion, comme dans cette sorte de boléro oppressant de Michel Magne, héros de ces sons du quotidien jetés dans un orchestre. Sa musique tachiste, telle qu'il l'appelait, avait ce goût du surréalisme comme l'indique le titre. Pointe de feu amortie au dolosal. Rien que ça. Mais bon, ici encore la machine à écrire reste une machine à écrire, que l'on aime deviner, identifier. Et si la machine à écrire devenait simplement une percussion, comme toutes les autres ? comme ici, dans ce duo pour cordes frottées et machines à écrire du bel orchestre, où l'objet semble plus être là pour ses qualités sonores que pour son existence de machine à écrire. Dans ce madrigal intitulé « Sel Sasso, ande più chiusa questa valle » pour six voix mixtes et percussions du compositeur Gavin Bryars, on distingue à peine la machine à écrire. Elle double un woodblock et devient ainsi plus un timbre qu'un simple objet. La performeuse vocale Maya Solveig-Ratche, dans son concerto for voice, Mood 3B, crée ainsi un jeu entre les multiples timbres de sa voix à 18 dimensions, et la pléiade de sonorités que déploie l'ensemble instrumental, ici interprété par l'ensemble intercontemporain, sous la direction de Matthias Pinscher. Au moment où émerge la machine à écrire jouée par le pianiste, Maya Ratche joue avec ses possibilités vocales, imitant les percussions de l'objet devenu soliste.
Mm-hmm.
Mais ce que l'on retient dans le son de la machine à écrire, c'est sa référence au passé. Comme un son archive, venant de notre mémoire, il persiste pour nous raconter des temps technologiques révolus. Michael Dougherty, dans Sing Sing, J. Edgar Hoover, mixe au quatuor à cordes tout un tas d'archives de la voix d'Edgar Hoover, vantant les mérites du FBI et de sa politique ultra-sécuritaire, à la limite de la violation de la vie privée. Michael Dougherty utilise alors les sons associés au FBI. Le téléphone, les sirènes, les chansons patriotiques, les armes à feu. Jusqu'à la machine à écrire, devenant alors le témoin de ce qu'a pu écrire Edgar Hoover. La machine à écrire, le son de ce que nous écrivons.
Keep it a secret. Keep it a secret. Keep it a secret. Keep it a secret. Keep it a secret.
Open the files of the FBI. Open the files of the
keep it a secret.
Open the files of the FBI. Open the files of the
keep it a secret.
Open the files of the FBI. Open the files of the
keep it a secret.
Open the files of the FBI. Open the files of the
keep it a secret.
The land of the free, brainwashed, and the home of the brave. The American people.
Abraham Lincoln, Carl Decay.
Today's Zig, and Zag, Reds.
Open the files of the FBI.
Open the files of the
keep it a secret. Open the files of the FBI.
Open the files of the
keep it a secret.
Brave.
Lobsters,
the land of the free.
Parasites,
President Kennedy.
Moral decay,
red swastika on the Nazis.
America.
Open the files of the FBI.
Open the files of the
keep it a secret.
Open the files of the FBI.
Open the files of the
keep it a secret.
The greatest concentration of communist workers has been found in three fields in the United States. Education, union, and entertainment.
Open the files of the FBI.
Open the files of the
keep it a secret.
Open the files of the
FBI.
Open the files of the
keep it a secret.
Open the files of the
keep it a secret.
Open the files of the
keep it a secret.
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 Vous voyez qu'on y arrive. Hein? C'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun. Mauro Lanza, bonjour.
Bonjour.
L'objet pour vous, est-ce que c'est un instrument ?
Ça peut être un instrument, ça peut être un objet trouvé sonore, ou un objet culturel, entre guillemets. C'est une idée que j'ai essayé de décliner plusieurs fois, en fait, dans des pièces récentes et aussi des pièces anciennes. Donc, par exemple, une des toutes premières pièces que j'ai composées, c'était une pièce pour voix et instruments d'enfant.
Les instruments d'enfant, régulièrement, vous les utilisez. Parce que la particularité d'un instrument d'enfant, c'est qu'il est un peu imprévisible.
Oui,
il y a des sons qui sortent qu'on ne maîtrise pas. Parce que si vous mettez, un petit saxophone en plastique dans les mains d'un saxophoniste, comme j'ai pu voir dans un de vos concerts, il y a quand même une part de chaos qui va se passer.
Oui, exact. En fait, ce qui se passe, c'est on se retrouve dans une situation qui à la fois est très courante, c'est-à-dire on est dans un concert de musique classique avec des gens qui sont assis derrière des instruments, sauf que les instruments, ils sont miniaturisés. Et à la fois, en fait, c'est pas des vrais instruments. Ils sont pas conçus pour faire de la musique, ils sont conçus pour être détruits par des enfants qui vont s'en servir pendant quelques mois, et après il faut en racheter des nouveaux. Et donc, ce qui m'intéressait, en fait, c'était à la fois utiliser la contrainte de ces instruments, qui sont très stricts, donc ces instruments qui sont très limités, comme vous l'avez dit, et ensuite travailler aussi avec un espèce de déplacement. Le fait que c'est des objets qui sont liés, du point de vue sonore, en fait, à un monde qu'on connaît, en fait, c'est le monde de l'enfance, donc il y a des clochettes, il y a des couinements, des choses comme ça. Mais en fait, lorsqu'on fait une sorte de translation, on les déplace dans un environnement qui n'est pas le leur, on a un effet de Unheimlichkeit, c'est le concept freudien en fait de étrangeté.
Ah, l'étrangeté, d'accord.
L'étrangeté. Okay. Je ne sais pas si on traduit ça comme étrangeté. Donc le fait effectivement que c'est quelque chose qu'on connaît, mais en même temps on le connaît pas trop. On en parle beaucoup dans la robotique, par exemple, de ce concept-là. Il y a même une notion qui est très très intéressante, qui est la Uncanny Valley. Donc, il s'agit en fait d'un original et un modèle.
Mm-hmm.
Et on a vu qu'en fait, le plus le modèle s'approche à l'original, le plus la sensation de familiarité avec quelque chose, donc de confort, s'accroît. Mais à un moment donné, quand le modèle est trop proche à l'original, il y a une chute. En fait, il y a un phénomène qui est le phénomène de l'étrangeté, en fait, qui donne l'origine à une espèce de malaise. Évidemment, c'est très fort avec le corps humain. Donc, si on a un robot, c'est un robot. Ça pose pas trop de problèmes. Si on a un androïde, quelque chose qui est plus proche à un humanoïde, là, ça fait très bizarre, en fait.
C'est-à-dire que ces instruments réduits, comme vous dites, quand ils se rapprochent le plus possible, finalement, d'un instrument que le musicien va maîtriser, il y a un moment de cassure, une mise en danger, finalement, de l'interprète. C'est-à-dire qu'il va pas pouvoir faire ce qu'il est possible de faire, ce qu'il peut avoir en tête. Il va suivre une partition sans savoir vraiment maîtriser les sons qu'il va pouvoir faire.
Oui, c'est exactement ça.
La mise en danger de l'interprète fait partie de votre composition, de votre idée du son que vous voudriez à la fin?
Je pense que c'est pas tellement la mise en danger de l'interprète, mais c'est plutôt le fait qu'en fait, je travaille dans ces cas-là et aussi dans d'autres cas, en fait, avec un système qui a des défauts. C'est un système de reproduction qui a des défauts. Donc, d'habitude, on a la partition, on a l'interprète, on a un résultat. Donc, l'interprète, il est plus ou moins fiable. Et si on rajoute une couche de aléatoire, en fait, on se retrouve avec quelque chose un espèce de filtre, en fait. Donc, la partition, elle passe à travers un espèce de circuit qui réagit mal, finalement. Et en fait, c'est un peu le même cas que les pièces qu'on a réalisées avec Andrea Valle. C'est une série de pièces, en fait, qui a commencé avec une pièce qui s'appelle Regnum Animale.
Le règne animal, oui.
Donc, c'est toujours basé sur l'idée du catalogue, c'est toujours basé sur l'idée de confrontation entre deux univers, confrontation et aussi fusion entre deux univers, donc l'univers des instruments classiques.
Mmh. En l'occurrence, là, c'est un trio, c'est ça, qu'on entend dans le Regnum Animale.
C'est un trio à cordes, et l'univers des objets mécaniques. Et en fait, c'est des objets mécaniques qui sont de la véritable poubelle, on peut le dire, en fait. C'est vraiment du matériel de récupération qui coûtait presque rien, en fait. On a fait vraiment les vide-greniers, en fait, pour trouver le matériel. Là, effectivement, c'est des objets comme des couteaux électriques, par exemple, qui étaient très à la mode dans les années 80.
Oui,
donc là, ils ont complètement disparu. Des couteaux électriques qui excitent des cymbales, il y a des presses citron, il y a des anciennes radios. Mmh. Et donc, les radios, elles sont accordées sur du static noise, donc sur du bruit blanc. Oui, à la fois du bruit blanc ou bien des sons de modulation d'amplitude. Mm-hmm. Bizarrement, ça fait un sol quart de ton, en fait. C'est comme la courante électrique. Donc, on a beaucoup utilisé cette note-là au cours de la pièce.
En fait, les objets vous permettent de composer. C'est eux qui vous proposent la matière avec laquelle vous allez écrire.
Exactement. Ils proposent de la matière. Et en même temps, tout le charme de ces objets-là, c'est qu'en fait, ils sont un système de reproduction mauvais.
Thank you.
Extrait de Regnum Animale, une pièce de Mauro Lanza avec Andrea Valle, puisque vous avez composé à deux vraiment. Est-ce que vous avez réparti vos compétences entre celui qui écrit pour les musiciens qui sont là présents, c'est-à-dire un trio à cordes, au centre d'un cercle d'objets, et Andrea Valle par exemple qui aurait pu faire uniquement la programmation de ces objets qui sont vivants finalement, puisqu'ils jouent tout seuls. Comment ça s'est passé cette double composition?
Souvent en fait on part sur des bases communes, en fait. On a un système d'échange de fichiers qui est très spécial, en fait, parce qu'on n'a pas exactement les mêmes compétences. Justement, Andrea, il vient plutôt du milieu de l'improvisation, il joue de la basse électrique, il enseigne à l'université de Turin, il est sémiologue, en fait. Donc, il a un parcours tout à fait spécial. Il écrit aussi de la musique instrumentale, mais c'est souvent des partitions qui sont un peu ouvertes. Alors que moi, je suis plus compositeur au sens traditionnel du terme, en fait. Donc, on a un système d'échange de fichiers qui est basé sur l'idée de fichier texte. Donc c'est des fichiers textes avec le nom de l'instrument, avec un numéro d'événement, avec c'est comme des partitions de logiciels de synthèse tels que C-Sound. En fait, c'est des listes.
Des listes.
Voilà.
Donc, parce que vous marchez par catalogue finalement. Vous récupérez des instruments, vous les cataloguez.
Oui.
Est-ce que vous les cataloguez par origine de son, c'est-à-dire est-ce que c'est un instrument qui va faire plutôt un bruit très fort ou bien plus un frottement? Est-ce que vous marchez par catalogage aussi dans ces découvertes d'objets que vous ramassez?
Oui, on groupe ça par en sous-catégorie d'habitude. Et après, en fait, l'écriture de la partie purement instrumentale pour les instruments classiques est plutôt mon travail. Mmh. Mais la conception des morceaux est vraiment faite à quatre mains.
D'accord.
Donc parfois, ça change. C'est des catalogues de pièces. Il y a 28 pièces dans Règlement Animal. Et donc, il y a certaines pièces qui ont été faites à 100% par moi, certaines pièces qui ont été faites à 100% par Andrea. Et dans ces cas-là, c'est des pièces qui n'ont pas d'effectifs traditionnels, en fait. Mmh. Il y a des pièces qui sont vraiment 50-50, et c'est la grande majorité quand même. À la base, il y a un travail d'échantillonnage des objets aussi.
Mm-hmm.
Donc les objets, ils sont... Parce qu'en plus, on ne travaille pas dans la même ville, donc André, il est à Turin, donc il enregistre tous les objets. Et avec cet enregistrement, en fait, je peux faire des analyses, et ensuite composer une partie pour les instruments classiques qui se marie le mieux possible, en fait, avec les objets.
Parce que vous parliez de fusion, c'est une de vos questions régulières, oui. C'est-à-dire la fusion entre l'instrumental, l'électronique, le vocal, c'est-à-dire trouver ce point d'accroche des différents timbres. Là, on entendait par exemple un Pizzbartok, c'est lorsqu'on lâche la corde assez violemment sur un violoncelle, par exemple, et on entendait associé à un son de radio, et finalement, on n'entend plus la radio, on n'entend plus le Pizzbartok.
Oui.
Est-ce que là, l'instrument acoustique devient aussi un objet autant que le couteau électrique dont vous parliez tout à l'heure?
Oui, en fait, il devient l'instrument et l'objet, l'instrument et la radio, ils deviennent un espèce de hybride, parce que d'un côté, en fait, c'est vraiment le principe du monstre, d'une manière. Donc l'idée de la greffe. Donc on greffe un bout de animal, par exemple, sur le corps d'un homme, et ce bout d'animal, il est complètement défonctionnalisé.
Mmh.
Et c'est exactement ce qui se passe là. En fait, la radio, elle est complètement défonctionnalisée. Elle est plus là pour écouter. Elle est là pour faire du bruit, en fait. Et c'est un peu pareil.
quand j'ai vu la pièce, comme elle était jouée, Ringo Animale, on a vraiment les musiciens qui sont au centre du cercle. On a ces objets qui vivent tout seuls, parce qu'ils sont tous programmés, enfin, pour être joués à partir d'un ordinateur qui envoie des influx électriques pour les mettre en route, finalement. Mmh. Et on a ce rapport du vivant et du non-vivant à chaque fois, comme si on avait des instruments autonomes, des objets autonomes, et puis qu'on avait quand même du vivant au milieu avec ces musiciens. Quelle est la réaction des interprètes lorsqu'ils sont entourés de ces objets qui prennent de l'espace sur leur univers du vivant?
Ça dépend beaucoup de l'interprète, en fait. D'habitude, le plus grand problème, c'est le timing. Donc, évidemment, les musiciens, ils sont obligés à jouer avec un clic, parce qu'on ne pouvait pas vraiment faire du temps réel avec ces objets. Et sinon, le fait de jouer avec des instruments qui ont un timbre qui n'est pas du tout traditionnel, en fait, c'est quelque chose qui, au contraire, a poussé certains instrumentistes, en fait, à chercher un son qui se rapprochait le plus possible. Effectivement, il y avait cette autre pièce qu'on a fait après, qui s'appelle Regnum Vegetabile, où il y a des sèche-cheveux, en fait, qui jouent dans des instruments avant. Donc, il y a des flûtes à bec, il y a des harmonicas, il y a des trompettes, des espèces de trompettes de supporteurs de foot, en fait, qui sont accordées avec des tuyaux en PVC, donc ils arrivent à produire des notes assez graves. Et la qualité du son est toujours très soufflée.
Oui, il y a toujours un rapport au bruit, finalement, qui est derrière.
Et en fait, le premier ensemble qui a joué ça, qui était Mosaïque, qui a créé la pièce, c'est un ensemble de Berlin, à un moment donné, ils se sont dit, OK, bah, nous, on va essayer de faire le même, on va chercher la même qualité. Effectivement, tous les bois, par exemple, ils jouaient avec un son qui était hyper soufflé.
Alors que vous ne l'avez pas demandé nécessairement au départ.
Non, pas forcément.
Là, il y a une part d'appropriation de l'objet.
Oui, exact.
Alors, je vous propose d'écouter Regnum Vegetabile.
Thank you.
Regnum Vegetabile, une pièce de Mauro Lanza et Andrea Valle. Là, nous sommes en 2015, c'est une création, là c'est l'ensemble mosaïque que nous entendons là dans la création.
Oui, tout à fait. C'est pas la création, c'est une reprise en Autriche.
Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on ne sait plus très bien qui est l'objet, qui est l'interprète derrière son instrument, par la fusion des timbres, mais c'est surtout parce que l'objet vit en soi. Il donne des intentions presque, parce que ce sont donc, si je comprends bien, ce sont des sèche-cheveux qui contrôlent des flûtes, des différents instruments avant, et ils varient, c'est-à-dire ils sont capables de changer de hauteur, ce sont des instruments vivants.
Oui, en fait, par rapport à Regnum Animal, là, on a un contrôle qui est continu. D'accord. Regnum Animal, chaque objet était juste... le comportement de chaque objet était binaire.
C'est-à-dire que c'est il marche ou il ne marche
il
pas.
Il marche ou il ne marche pas. Après, bien sûr, il y avait, on a beaucoup travaillé avec la latence des objets qui donnait un effet de continu.
Oui, c'est vrai, un instrument qui se met, un outil électrique qui se met en route, oui, ça prend du temps, on entend le moteur qui se met en route. Voilà.
Exact, exactement. Il y avait par exemple il y a des platines en fait avec des vinyles. Et là, on donnait juste une impulsion et il y avait un effet de glissando, en fait.
Oui, bien sûr.
Et dans ces cas-là, par contre, en fait, on peut envoyer de la courante électrique, en fait, et la doser. Donc, mettre en marche plus ou moins les moteurs des sèche-cheveux.
Et donc, changer la hauteur.
Changer la hauteur. Aussi, on a beaucoup utilisé, en fait, des effets de seuil, où, en fait, le moteur, il n'arrive pas à se mettre en route. Et donc, quand le moteur il n'arrive pas à se mettre en route, il fait juste une note très aiguë. Pas très aiguë, c'est un si, en fait, c'est autour du la.
C'est la note qu'on entendait à toute fin.
C'est la note qu'on entendait à la fin, oui. On a beaucoup utilisé ça.
Mais finalement, ces pièces-là, Regnum Animale, Regnum Vegetabile, est-ce qu'il faut plus les voir que les entendre? Parce que là, finalement, l'objet est autant instrument que l'instrument est objet. Quand on voit l'installation, on voit l'objet vivre, on voit... Est-ce que ce sont des performances plus que des formes de concerts de musique instrumentale?
Je pense que c'est de la musique qui passe aussi bien enregistrée qu'un concert, mais c'est vrai qu'un concert, il y a un petit plus qui est lié à l'installation qu'on voit marcher. Après, c'est des petits objets, donc en fait, la dimension idéale pour profiter de ces pièces, c'est vraiment de la musique de chambre. Il faudrait être dans une petite pièce, écouter la pièce, être assis vraiment à côté des objets et les voir tourner.
Lorsqu'on écoute un objet, il a un son, vous parlez de comportement binaire dans Regnum Animale, donc... Ça peut aussi influer sur votre écriture, parce que lorsqu'on écoute ces différents extraits qu'on a écoutés, on entend souvent des boucles, des répétitions qui se font, comme si chaque instrument était une sorte de sampleur, c'est-à-dire un sample qu'on appuie les uns après les autres. Est-ce que l'objet conduit l'écriture vers cette répétition nécessairement? Est-ce qu'on arrive à justement le faire rentrer dans un discours, dans une structure globale? On compose pour l'objet ou on compose avec l'objet?
Je pense qu'il y a un feedback, c'est vraiment un processus de rétroaction qui est assez compliqué. C'est vrai que d'un côté, en fait, l'objet nous propose des choses, donc tout le côté très machinal de Regnum Animale vient effectivement du fait qu'on a affaire avec des objets qui sont binaires. Et puis, je pense que, d'une manière, en fait, avec Regnum Vegetabile est une pièce qui est un peu plus musicale au sens classique du terme, en fait, et les objets, ils sont beaucoup plus travaillés. Le sèche-cheveux, il est quand même un déchet, mais il est un déchet qui est vraiment transfiguré. Alors que dans Regnum Animal, effectivement, on a affaire vraiment avec de la récupération. Donc c'est un monde post-numérique, d'une manière. C'est vraiment les déchets analogiques qu'ils ont subvacués à l'ordinateur, et en fait, ils sont contrôlés par lui dans un espèce de rapport hiérarchique très, très étrange, en fait, entre matière analogique et matière numérique.
Pour rester dans cet univers du numérique de l'ordinateur, je propose d'écouter un extrait de Burger Time ou La Tentation de Saint-Antoine, une pièce que vous avez écrite au départ pour tuba électronique. Et là, uniquement, on va écouter que la bande, une autre version de 2008, où là, on va voir comment, à partir du jeu vidéo, on peut en faire des objets, des samples, pour une composition. Thank you. Time ou les Tentations de Saint-Antoine de Mauro Lanza. Mauro Lanza, là, ici, on a vraiment des objets trouvés dans notre culture numérique, dans notre culture de l'ordinateur, du jeu vidéo, mais quasiment méconnaissables. À part quelques flashs, on voit vraiment que c'est un collage effervescent, presque hypnotique, de tous ces sons qui font partie de notre culture actuelle, pour une génération trentenaire qui sont nés avec l'ordinateur 8 bits. Est-ce que vous travaillez par collage ?
Oui, dans ces cas, en fait, l'idée de cette pièce, en fait, de la fin de cette pièce, c'est qu'il y a une série de gammes qui montent. Mmh. Et en fait, cette gamme sont un peu comme la... il faut considérer ça comme un peu le premier plan, en fait, de la musique du jeu vidéo. Les jeux d'arcade des années 80, et Burger Time, c'est un jeu qui date de 82, je pense, 84, je ne me souviens pas exactement. En fait, ils travaillaient avec un système multiprocesseur, déjà à l'époque, avec des processeurs qui n'étaient pas très bien synchronisés. Donc, il y avait une musique qui tournait, il y avait les actions de jeu, donc il y avait un processeur qui était dédié à la graphique et aux actions des jeux, qui communiquait avec un autre qui était dédié simplement au bruitage. Mmh. Et donc, dès qu'il y avait un fait saillant, en fait, dans les jeux, il allait déclencher un bruitage, donc par exemple la mort du personnage, ou bien le fait qu'on avait chopé un bonus, ou une vie supplémentaire. Et en fait, ça déclenchait un bruitage. Et le bruitage interrompait la musique. Donc, la fin de cette pièce est plus ou moins conçue comme un jeu vidéo où on joue, et les bruitages ouvrent une fenêtre, en fait, sur la véritable action du jeu. Donc, il n'y a pas vraiment de musique de jeux vidéo qui sont utilisées, mais plutôt des bruitages. Mmh. Donc, il y a des bruitages qui viennent de Dig Dug, Burger Time, Pac-Man. Et à la toute fin, en fait, ces petits thèmes qui commencent à devenir de plus en plus reconnaissables est le véritable thème de Burger Time.
D'accord.
Et c'est la seule fois qu'une véritable musique de jeu vidéo arrive.
C'est la laisser finalement nous parler à un moment, parce que ça va marcher avec notre culture. Vous parliez d'objets trouvés culturels, là ce sont des objets trouvés culturels. Et de la même manière, il y a des machines aussi qui parlent d'elles-mêmes sans être dans le... Là on est sur des objets qui sont programmés, mais on a des machines qui parlent d'elles-mêmes. Vous êtes venu avec un morceau de The User, un duo canadien, et qui travaille avec des machines comme l'imprimante. Et ça, c'est finalement quelque chose qu'on entend tous les jours dans notre quotidien. On se dit pas que ça fait de la musique, mais il est possible de programmer une machine pour qu'elle fasse de la musique.
Oui, tout à fait. The User, en fait, c'est un duo canadien. Ils ont composé cette symphonie numéro 2 pour imprimante matricielle. Et ça date de 99. Donc c'est une époque en fait où ils ont utilisé des objets obsolètes du point de vue technologique, qui étaient obsolètes depuis pas très longtemps en fait. Les imprimantes matricielles, c'est des dates de début des années 90. Donc 9 ans après, effectivement la technologie progresse tellement vite que l'obsolescence est très rapide. Et donc ils ont composé ça. Maintenant c'est très à la mode, effectivement on voit des milliers de vidéos sur YouTube où il y a des morceaux de Radiohead qui sont joués par des floppy disks, par des imprimantes et par des scanners. Mais à ces moments-là, en 99 c'était très nouveau et en fait aussi le système de contrôle est très intéressant. Ils ont fait très simple et c'est simple et conceptuel à la fois en fait. Ils utilisent des imprimantes et la partition c'est du texte.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comment l'imprimante va écrire le texte qui crée la musique. Donc, en fait, il suffit de placer le texte à différents endroits de la page, par exemple, pour créer des blancs et des noirs avec les lettres.
Exact.
Eh bien, écoutons une imprimante qui vibre, une imprimante matricielle. Chers écoutants, c'est bien une imprimante qu'on écoute là actuellement, enfin qu'on vient d'écouter, par The User, la deuxième symphonie pour imprimante matricielle, comme quoi un objet peut être tout à fait autre chose que ce qu'on attend de lui, et non pas ce simple défilement de son d'une imprimante. Merci beaucoup, Mauro Lanza, d'être venu partager ce petit bout de votre grand catalogue d'œuvres, parce que vous ne travaillez pas qu'avec des objets, encore une fois, vous travaillez aussi avec des instruments acoustiques traditionnels, mais c'est vrai que c'est une grande part de votre création. Alors je signale aux auditeurs que vous avez donc la reprise de Regnum Animale, donc on a écouté au tout début de notre interview, qui sera repris le 10 mars à Paris par l'ensemble 2E2M. Et le 29 avril, ils feront la création du Regnum Lapidalum, c'est-à-dire le troisième volet.
Oui.
Voilà, avec à peu près le même dispositif, c'est-à-dire instruments et musiciens acoustiques.
Oui, alors c'était Regnum Végétable, c'était un sextour, Regnum Animal, c'était un trio. Là, c'est 8 instruments et un setup d'objets électromécaniques qui, avec des cordes pincées mécaniquement, avec des... qu'est-ce qu'il y aura? En fait, c'est encore un cours de travail. Donc
D'accord, ok. Je vous laisse travailler dessus. On aura la surprise le 29 avril à Paris par l'ensemble 2E2M. Et je signale aussi le disque Solitude de Séverine Ballon, où elle reprend au violoncelle et piano, avec piano, le combat de Carême et Carnage, une œuvre multiple, on pourrait dire comme ça, avec beaucoup d'influence, pas d'objet, mais plutôt d'information, de l'effervescence, du collage, de l'objet trouvé finalement. Merci beaucoup, Mauro.
Merci.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
France Musique.
Zoom sur Music for a Single Spring de Hugh Davis. Un unique ressort est le faire sonner, au travers de résonateurs ou en contact avec des circuits électroniques. Music for a single spring, musique pour un ressort. Interprétée en 1975, cette œuvre du compositeur Hugh Davis place son créateur au pinacle de l'électronique lo-fi, autrement dit basse fidélité. Pendant que d'autres se plongent dans les nouveaux ordinateurs, Hugh Davis bidouille, trifouille l'objet simple. Une démarche assumée, vibrante, tranchante et intime. We'll be right back.
Depuis les années 60, Hugh Davis n'a eu de cesse de chercher. Ces sons imprécis, ces matières rugueuses que les objets de notre quotidien créent malgré eux, avec ou sans l'aide de l'électronique. Des peignes, des coupes œufs, ou ces petits ressorts tendus sur une boîte de thé. Tout est bon pour créer le vocabulaire de Hugh Davis. Ses compositions sont à la fois improvisées et écrites sous forme de partitions graphiques, ouvertes à tous les possibles. Surtout à l'indétermination de ce que va produire l'objet, souvent incontrôlable. La démarche de Hugh Davis part d'instruments qu'il a imaginés à la toute fin des années 60, à partir d'objets ménagers. Les Shoezig. Dès 1968, Hugh Davis construit et fait sonner ces instruments appelés Shoezig. Le premier d'entre eux, que nous entendons actuellement, a été réalisé dans le dernier volume d'une encyclopédie, totalement vidée. Hugh Davis y a inséré des objets métalliques munis de micro-contacts pour amplifier les tout petits sons qui émergent de ces Shoezig. Pourquoi Shoezig ? Parce que le volume de l'encyclopédie allait de Sho à Zig. Mais revenons à notre ressort. Tout le propos de Hugh Davis réside dans le minimalisme de ses installations, comme la qualité de ses improvisations. Créer un discours fait de surprises et d'inattendus avec un simple objet, une simple matière. Car le ressort que l'on voit manipuler, qui est indiqué déjà dans le titre de l'œuvre, a surpassé le ressort. De l'objet de notre quotidien, du bruit du quotidien matérialiste, le ressort est devenu un objet sonore. Une multiplicité de sonorités insoupçonnées, livrée généreusement dans une musique instinctive et spontanée. fin de notre premier épisode du Cri du Patchwork sur l'objet. Merci à Perrine Mingui aux commandes et à la réalisation du Cri du Patchwork. Nous avions aujourd'hui la technique Philippe Palares. Merci à Flora Sternadel, toujours à la recherche du moindre son. La semaine prochaine, nouvelle étape dans l'objet. À l'occasion du centenaire de Dada et ses expérimentations en tout genre, je recevrai David Christoffel, compositeur, poète et performeur, entre autres activités à la radio, pour évoquer ensemble ce qu'il reste aujourd'hui de Dada. En particulier dans l'univers de la poésie sonore, là où le mot, la lettre, le sens deviennent des objets autant que l'urinoir de Marcel Duchamp. Dada, pas Dada, tout est Dada, rien n'est Dada. Une émission en forme de critique de Dada pour mieux lui rendre hommage. D'ici là, si vous voulez connaître toutes les informations liées aux extraits diffusés dans cette émission, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de France Musique, francemusique.fr, où vous pourrez également réécouter l'intégralité du Cri du Patchwork. Chers écoutants.
Si je fais 1, tagaram, 1, parap, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, parap, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein, bonjour, au revoir. Voilà.
Vous êtes bien sur France Musique, il est 22h30, l'heure pour moi de passer la main à Anne Montaron et son Nala Brévé. À vos oreilles.